C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djendji. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Où que vous soyez, vous tous qui êtes à l'écoute, vous ne vous êtes pas du tout trompés. Comme vous l'avez suivi, vous écoutez bel et bien votre très chère émission, l'heure de la vérité. Pour vous servir une fois de plus, mesdames et messieurs, juste à mes côtés, mon bien-aimé frère dans le Seigneur, frère Yannick, et je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur. Et bien entendu, nous croyons que tout se déroule sous le contrôle total de son Excellence, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations. Dans le merveilleux et magnifique nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, jour après jour. Nous voulons te remercier particulièrement pour ce moment que tu nous donnes d'être là au-devant de toi, dans ta sainte présence, pour partager ta sainte parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu feras. Nous voulons que tu bénisses vraiment ce moment, que tu bénisses ces multitudes qui sont à l'écoute et que tu prennes également le total contrôle de toutes choses dans les moindres détails. Seigneur, ne tiens pas compte de nos fautes, de nos péchés, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, parce que tu es mort à la croix pour nos péchés. Laisse que ce moment puisse être vraiment très très bénéfique pour nous. Merci, merci de bénir ta parole, merci de bénir toutes ces multitudes, que toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce, la louange, les acclamations et l'adoration te reviennent à toi seul pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Amen.
Amen.
Frère Yannick, par la grâce du Seigneur, tu es encore là. Il ne manquerait jamais de te dire que sois réellement béni dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus.
Amen.
Parce que ce n'est pas toujours évident d'honorer ces différents rendez-vous. Est-ce que tu peux dire un mot à nos auditeurs avant que nous continuions?
Je veux profiter pour les saluer, les bénir encore davantage, qu'ils soient toujours connectés, car Dieu a prévu beaucoup de merveilles pour eux. Amen.
Amen. Mesdames et messieurs, comme promis, nous allons continuer à nous intéresser à ces petites histoires qui nous donne des grandes leçons pour la vie. Et cette première histoire de ce jour, c'est l'histoire de cet homme qui avait une conscience qui l'accusait jour et nuit, et il ne dormait pas du tout parce qu'il se sentait coupable de la mort de quelqu'un. Et il n'avait aucun moyen de soulager sa conscience. C'est ainsi qu'il était tourmenté jour et nuit. Et voilà que dans cette même ville, entre-temps, il y avait eu une vente aux enchères. Et il y avait un article, pas comme les autres, une vieille et grosse Bible qui était parmi les objets qu'on vendait aux enchères. Et personne n'en voulait. Il y a un commerçant qui a décidé d'acheter cette grosse et vieille Bible. Oui, avec quelques sous. Bien sûr que lorsqu'il l'avait acheté, pour lui, ce n'était pas parce que c'était la Bible. Il voulait tout simplement l'utiliser comme l'emballage pour emballer ses articles, puisqu'il était commerçant. Et voilà que le monsieur donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait sa conscience surchargée et qui se sentait coupable de la mort de quelqu'un et qui n'avait pas le sommeil ni la paix, a envoyé son fils acheter quelque chose à ce commerçant. Et voilà que ce commerçant a arraché une feuille de la Bible pour emballer cet article. Et lorsque l'enfant va amener ce qu'il a acheté à la maison, le père va s'intéresser à quelque chose qui était écrit sur cette feuille de la Bible qui avait été arrachée pour emballer ce qu'il avait acheté. Et il est tombé sur Hébreux chapitre 9, le verset 22, qui dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Une fois de plus, vous êtes encouragé à avoir un stylo et sur quoi noter tous les versets bibliques, parce que c'est très très important que votre foi soit fondée sur les saintes écritures. Et ça va attirer son attention, et sans perdre de temps, il va encore commissionner son enfant chez ce même commerçant. Et voilà que, entre-temps, ce commerçant avait arraché beaucoup d'autres feuilles pour emballer d'autres articles à d'autres clients. Et il était déjà dans la première lettre de Jean, première épître de Jean, chapitre 1er. Et l'enfant va revenir avec cette feuille de 1 Jean chapitre 1, et le monsieur va lire le verset 7 qui va dire ceci: le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le verset 9 va dire: si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Et ce monsieur va se rendre compte qu'en réalité, il avait trouvé la solution à son problème. Le sang de Jésus était capable d'effacer ses péchés. Et la Bible lui dit que s'il confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Et même pour le purifier de toute iniquité. Et c'est ce qu'il va s'empresser de faire. Confesser ses péchés à Dieu et recevoir le Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi qu'à partir de ce jour, cette lourde charge, ce lourd fardeau qui avait sur sa conscience va être ôté. Il va trouver la paix et surtout le salut de son âme. Mesdames et messieurs, la Bible est réellement la parole de Dieu. Nous voyons que même déchirée, elle demeure toujours la parole de Dieu. Même au travers d'une page de la Bible, Dieu peut sauver une âme qui cherche le salut. C'est pour vous encourager vraiment à vous intéresser à la Bible. Beaucoup sont prêts à faire même la guerre. Même la guerre sainte, peut-être parce qu'on a profané les livres religieux ou les prophètes. Mais la Bible est comme un lion On ne défend pas un lion. La Bible se défend d'elle-même. Et le Seigneur Jésus-Christ également. Amen. Donc, les gens peuvent profaner la Bible, faire tout ce qu'ils veulent. La Bible reste et demeure toujours la parole de Dieu. Et la Bible est bien placée pour se défendre elle-même. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Ce que nous faisons ici, nous prêchons tout simplement le message de la Bible. Nous ne la défendons pas. Nous prêchons tout simplement le Christ. Parce que le Christ peut se défendre tout seul. Et la Bible également. Alléluia.
Amen.
Nous sommes en train de nous intéresser à ces petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est mort dans un jardin. Et lorsqu'on a trouvé son corps, on s'est rendu compte qu'il est mort de famine. Mais ce qui agaçait les gens, c'est que dans ce jardin, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Les pommes, les mangues, les papayes, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cet homme n'avait jamais su que ces fruits étaient consommables. C'est ainsi qu'il est mort de faim. Alors que tout autour de lui, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers qui pouvaient le maintenir en vie le plus longtemps possible. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui nourrit l'homme, comme les fruits et légumes. L'ignorance, mesdames et messieurs, tue. Vous deviez le savoir. Ce n'est pas en vain que la Bible dit dans Osée, oui, le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Frère Yannick, tu vas chercher cette portion en Sainte Écriture et lis pour nous tous. Osée, chapitre 4, le verset 6. Lis ce qui est écrit.
Il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Parole du Seigneur.
Amen. Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance est quelque chose qu'il faut rechercher. La connaissance peut nous sauver de beaucoup de choses, peut nous délivrer de beaucoup de choses. L'ignorance est pire même que le sida. Voilà un monsieur qui meurt de faim dans un jardin où il y a toutes sortes d'arbres fruitiers parce qu'on ne l'avait jamais appris et qu'il ne l'avait jamais su que ses fruits pouvaient le maintenir en vie. Et il est mort de faim. Et c'est pour vous encourager, vraiment, vous tous qui êtes même élèves, étudiants, à tout faire pour avoir le maximum de connaissances possibles à l'école. C'est vrai qu'on nous dit que les diplômes ne servent plus à rien. N'empêche, ayez quand même ce diplôme. Parce que si un jour on a besoin de quelqu'un qui a ce diplôme, au moins vous pouvez vous présenter. Et j'ai été toujours fasciné par ce monsieur qui dit à qui veut l'entendre qu'il a plusieurs doctorats, plusieurs licences. Et il a fait cela exprès. Parce que lorsqu'on lance un concours, on a besoin de personnes ayant des licences, des doctorats. Lui, il vient avec au moins deux. Ce qui veut dire qu'il est sûr d'être parmi ceux qui seront recrutés. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'on ne recrute pas quelqu'un qui a au moins deux doctorats et deux licences. Donc, ne vous amusez pas avec vos études. Lorsque vous êtes en train d'apprendre, apprenez vraiment. Soyez parmi les meilleurs dans votre catégorie.
Amen.
Parce que la connaissance est une bonne chose. Oui, la connaissance est une très bonne chose. C'est pour vous encourager. C'est un clin d'œil que je fais aux élèves. Mettez-vous au travail. travailler vraiment, rechercher la connaissance, laisser de côté les amusements, les distractions, le sexe et tout ce qui est futilité. Laissez tout cela de côté, concentrez-vous sur vos études. La connaissance est une très bonne chose. La connaissance aussi, c'est le pouvoir. Que la personne qui a vraiment les oreilles pour entendre, entende. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, le verset 5, oui, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5, qu'est-ce qui est écrit là, Frère Yanni? 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5.
Il est écrit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. » Parole du Seigneur.
Amen. L'apôtre Pierre ici encourage les chrétiens à faire tous les efforts. Tous les efforts. Pour faire quoi, Frère Yannick? Relis.
« À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. »
Alléluia. À la vertu, la connaissance. Bien sûr que la plus grande connaissance est la connaissance de Dieu. En dehors des livres de mathématiques, de sciences, de technologies et autres, n'oubliez pas surtout que la Bible doit avoir une place de choix dans votre bibliothèque. Oui, parce que la connaissance de Dieu aussi est très, très importante. Parce que nous ne devions pas seulement nous intéresser à la connaissance des choses du monde, nous devions aussi nous intéresser à la connaissance de Dieu. Parce que si le diable trompe les gens, si les sectes pernicieuses détournent les gens en utilisant même la Bible, si les systèmes religieux corrompus égale les gens en utilisant la Bible, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas la connaissance des Saintes Écritures et on les trompe comme des enfants. C'est pour vous encourager vraiment à vous intéresser également à la Bible, à faire tous vos efforts pour avoir la connaissance. La Bible, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, n'est pas un livre codé ou compliqué. Dieu ne peut pas envoyer une lettre en la compliquant. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Si vous vous mettez à la lire avec foi, le Saint-Esprit se chargera de vous enseigner et de se révéler à vous.
Amen.
Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'écouter l'heure de la vérité. Connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons, des leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire de ce chrétien qui voyageait dans un bateau et sur ce bateau, il y avait un télescope. Cet appareil qui permet de regarder les étoiles dans les cieux. Et voilà que quelqu'un, pour se moquer de ce chrétien, lui a dit: depuis que je suis en train de regarder le ciel, je n'ai pas vu Dieu. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'étoiles, mais je n'ai pas vu Dieu. Et il a également appelé beaucoup de personnes qui étaient dans ce bateau. Et ils se sont joints à lui pour se moquer de ces chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu au travers de leur télescope en regardant le ciel. Et le chrétien va tout simplement répondre ceci à ses moqueurs. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est un verset biblique, bien entendu. Vous pouvez chercher cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Mesdames et messieurs, sachez que on ne se moque pas de Dieu. Même si vous ne voulez pas vous intéresser à l'évangile du Seigneur Jésus, à l'évangile que nous prêchons de grâce, ne vous moquez pas de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais ne vous moquez pas des serviteurs de Dieu, encore moins de Dieu et de sa parole. Frère Yannick, nous allons lire dans le psaume 1er, les 3 premiers versets. Psaume 1er, les 3 premiers versets. Tu peux lire cela pour nous tous.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne soyez pas parmi ceux-là qui s'assied en compagnie des moqueurs. Ne soyez pas parmi ceux-là qui se moquent de Dieu, de son évangile. Et ne vous associez pas avec ceux-là qui se moquent de Dieu et de sa parole, mesdames et messieurs. Nous allons également lire dans 2 Pierre, chapitre 3, la deuxième lettre de Pierre, l'apôtre Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3 au verset 10. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3 au verset 10. Qu'est-ce qui est écrit là, Yannick?
Il est écrit, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardé et réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, car quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Amen, amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, l'apôtre Pierre dit clairement que l'une des choses qui va caractériser cette période que nous vivons, qui est la fin des temps, c'est qu'il y aura beaucoup de moqueurs. Donc, ce n'est pas surprenant si autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se moquent de l'Évangile, qui se moquent de Dieu. C'est ce qu'il va dire au verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Oui, beaucoup disent, Jésus avait dit qu'il reviendra. Quand est-ce qu'il reviendra? Je reviens. Est-ce que tu es Jésus? Même Jésus avait dit qu'il revient. Une façon de se moquer de cette parole du Seigneur. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit que si Jésus n'est pas encore venu, c'est qu'il use de patience. Il sait qu'il y a beaucoup qui sont encore sur le chemin de la perdition. C'est pour cette raison qu'il veut que beaucoup de gens arrivent à la connaissance de la vérité et surtout à la repentance. Un jour, la patience de Dieu va toucher à sa fin. Oui, il faut vraiment que vous le sachiez. La Bible va jusqu'à dire que nous n'avons pas du tout le même calendrier avec Dieu. Lorsque nous avons compté 1000 ans sur la terre, Dieu voit dans son calendrier un jour. Donc depuis que le Christ est mort, nous disons qu'il y a 2000 ans, mais Dieu, lui, il ne voit que 2 jours. Donc nous n'avons pas du tout le même calendrier avec Dieu. Dieu n'est pas limité ni dans l'espace ni dans le temps. Donc ne vous moquez plus de Dieu. Et cet autre verset que nous allons lire dans Galates chapitre 6, le verset 7. Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 7. Frère Yannick, si tu trouves cette portion de Sainte Écriture, tu peux lire pour nous tous. Galates chapitre 6, le verset 7.
Il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi par le Seigneur.
Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous êtes toujours à l'écoute de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette autre histoire, c'est l'histoire de cet enfant qui avait l'habitude de se moquer de son oncle qui était un boiteux. Chaque fois lorsque cet oncle venait le rendre visite à la maison, il se moquait de son pied malade. Et voilà qu'un jour, le père de cet enfant va l'appeler et lui dit: je vais te raconter l'histoire de ton oncle. Il n'est pas né boiteux. Voici ce qui s'est passé. Un jour, alors que tu étais encore tout petit, tu es tombé dans la rivière et tu étais en train de te noyer. Et c'est lorsqu'il a voulu te sauver en plongeant dans cette rivière qu'il s'est cassé la jambe. Et c'est depuis ce jour qu'il est devenu boiteux. C'était vraiment un choc pour le petit de savoir que cet oncle dont il se moquait de son pied malade, en fait, était devenu boiteux parce qu'il avait voulu le sauver de la noyade. C'est ainsi que depuis ce jour, son regard vis-à-vis de cet oncle et surtout de son pied malade avait carrément changé. Désormais, lorsque cet oncle venait à la maison, il venait s'asseoir à côté de lui et il caressait ce pied boiteux. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, beaucoup ne savent pas exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux à la croix. Beaucoup vont même jusqu'à se moquer de la mort de Jésus à la croix, parce qu'ils ne connaissent pas réellement ce que Jésus a fait à la croix. Pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Lorsqu'on est venu arrêter le Christ, les apôtres ont essayé de le défendre. Il a dit: ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'il en soit ainsi. S'il fallait me défendre, même 12 légions d'anges pouvaient descendre des cieux pour me défendre. Donc le Christ a accepté volontairement de se livrer à la croix, de se laisser humilier au milieu de 2 brigands, de laisser couler son sang pour nous sauver. De la même manière que cet homme, cet oncle, en voulant sauver ses petits, a cassé sa jambe, le Christ, en mourant à la croix, en versant son sang précieux, innocent, était tout simplement en train de nous sauver. Pas de la noyade physique, mais de la noyade spirituelle. Le jugement et le temps de feu après la mort. C'est pour cette raison que des multitudes peuvent célébrer, exalter, magnifier, glorifier acclamer, honorer de tous les cœurs le Christ, parce qu'ils savent ce que le Christ a fait pour eux à la croix. Ce n'est pas pour rien que le Christ reste et demeure l'homme le plus chanté, le plus honoré, le plus acclamé, la star des stars dans le monde entier, parce que beaucoup voient dans la croix les saluts, les délivrances, la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. Et ce que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 53, écoutez attentivement, c'était une vieille prophétie, plus de 700 ans avant que cela ne se réalise. Le prophète Ésaïe va prophétiser sur la venue de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 3 au verset 12. Écoutez attentivement. Et désormais, votre regard vis-à-vis de Christ va changer. Oui, tu peux lire cela pour nous tous, frère Yannick.
Il est écrit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était recranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen.
Amen. Ce texte est tout simplement sublime. Plus de 700 ans avant que cela ne se réalise, nous voyons les détails de la mission de Christ sur la terre. Tout s'est accompli point par point. Même le fait qu'il soit mis dans une tombe qui était offerte par un certain riche, Joseph d'Arimathée, tout cela était déjà annoncé d'avance. Le fait qu'il soit crucifié au milieu de deux brigands, de deux bandits, était également préparé d'avance par le Seigneur. Et tout s'est réalisé comme Dieu l'avait prévu. C'est vraiment sublime. Vous voyez que la mort du Seigneur Jésus à la croix, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qu'il fallait à tout prix que le Christ le fasse. Parce que notre pardon, notre délivrance, notre guérison, notre salut devrait passer par là. Donc, ne méprisez pas la croix de Christ. ne vous moquez pas du Seigneur Jésus qui est mort à la croix. C'est parce qu'il était tout simplement en train de porter vos iniquités, vos péchés, vos malédictions. C'est pour cette raison que si vous croyez en lui, tous vos péchés seront tout simplement effacés. Vos liens seront tout simplement brisés. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix il y a plus de 2000 ans. Amen. Beaucoup ne le savent pas et nous sommes là pour crier au effort afin que beaucoup le sachent. Que c'est vraiment merveilleux. Nous allons également lire dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 15. Comprenez attentivement ce qui est écrit. Colossiens chapitre 2, les versets 13 et 15. Frère Yannick, que tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, parole du Seigneur.
Alléluia. La Bible nous dit clairement ici que tous les hommes ont un papier sur lequel est écrit tout ce qu'ils ont commis comme péché sur la terre. Mais Christ, en mourant à la croix, a effacé tout cela par sa mort, par son sang. Il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus, tout ce que vous avez commis comme gaffe, comme péché, sera tout simplement effacé. Parce que Jésus à la croix a payé le prix, son sang efface tout cela. C'est ce qui est clairement écrit ici. La Bible ira plus loin en disant que, à la croix, de façon publique même, pendant que les gens voyaient un homme physique sur la croix, avec l'œil physique, il était en train de triompher publiquement des dominations, les autorités. Tout cela symbolise les puissances des ténèbres. Donc le Seigneur Jésus-Christ était en train de remporter une grande victoire dans le monde mystique, dans le monde de Satan. Mais les hommes étaient loin d'imaginer cela. Nous voyons que la croix de Jésus, le Seigneur Jésus mort à la croix, c'est plus que ce que nous imaginons. Tout s'est joué à la croix. Tout s'est joué à la croix. Ah, que c'est vraiment merveilleux. Et j'ose croire par la grâce de Dieu qu'à partir de ce jour, désormais vous allez avoir un autre regard en ce qui concerne la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc si, après votre mort, vous êtes jugé et envoyé dans les temps ardents de feu, ce n'est pas du tout parce que vous avez péché, mais c'est parce que vous avez refusé d'accepter le Christ qui est mort pour vous à la croix. Tout simplement. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit. Lorsqu'on vous offre quelque chose, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de tendre les mains et de recevoir. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons, surtout des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire de cette jeune demoiselle qui était fiancée à un officier et il devait se marier dans peu de temps. Mais voilà qu'entre-temps, cet officier a été appelé à aller au front du combat. Lorsqu'on est officier militaire, à tout moment, on peut être sollicité pour aller en guerre. Et voilà que lorsqu'il va se retrouver sur le champ de bataille, il va recevoir une balle au niveau des yeux. Et c'est ainsi qu'il va devenir aveugle. Et lorsque les médecins vont l'examiner, le diagnostic est clair Il est incurable. Il va passer désormais toute sa vie aveugle. Et en tant qu'aveugle, naturellement, on devait le renvoyer du champ de bataille. Lorsqu'il retourne, il voit sa fiancée. Il lui dit, maintenant que je suis aveugle, nous ne pouvons plus nous marier. Va refaire ta vie avec qui tu veux. Et la jeune fille va répondre à cet officier, il n'est pas question que je parte me marier avec un autre homme. C'est maintenant que tu as beaucoup plus besoin de moi. On va se marier.
Amen.
Ah, que c'est merveilleux.
Amen, amen.
Vivre le vrai amour, vivre la vraie amitié. Je ne sais pas si ceux qui sont à l'écoute étaient à la place de cette jeune fille. Ils pouvaient agir de la sorte. Mesdames et messieurs, nous allons lire dans Proverbes chapitre 17, le verset 17. Proverbes chapitre 17, le verset 17. Réanne, que si tu trouves cette portion sans écriture, tu peux lire pour nous tous. Proverbes 17, 17.
Il est écrit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère par le Seigneur.
Alléluia. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Donc l'ami, ce vrai ami, c'est cette personne qui est capable d'aimer en tout temps, même lorsque vous êtes dans le malheur. C'est ça, le vrai ami. Parce que nous sommes dans un monde des intérêts. Et ce n'est plus un secret pour personne. Et bien entendu, le Seigneur reste et demeure également cet ami qui nous aimera toujours en tout temps, même dans le malheur. C'est pour cette raison que vous êtes encouragés à ouvrir vos cœurs pour recevoir le Seigneur, le Christ. Parce que le monde dans lequel nous vivons, en réalité, nous avons besoin d'un ami sur qui nous pouvons compter en tout temps. Et ce n'est que Dieu qui est bien placé pour être cet ami. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, il va nous dire ceci, ce verset 5 de Hébreux 13, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia.
Amen.
Le Seigneur promet ici qu'il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Si tu mets ta confiance en lui, voilà ce que Dieu te dit. Il ne t'abandonnera point. Comme cette jeune fille qui a décidé de se marier, malgré le fait que son fiancé avait perdu ses deux yeux sur le champ des batailles. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aide de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ces petites histoires qui nous donnent des grandes leçons. Et si tout des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire de certaines personnes qui avaient décidé de corriger la Bible. Ils ont tous pris un stylo rouge et ils avaient une mission. Cette mission, c'était corriger la Bible, parce que selon eux, il y avait des erreurs dans la Bible et ils devaient les souligner et les corriger et les montrer au monde. Et voilà, ils ont commencé par le commencement, le livre de la Genèse. Ils ont commencé à lire la Bible dans le but de la corriger. Et à la fin, coup de tonnerre. Ils se sont tous repentis et ils sont tous convertis au Seigneur. Et ils ont dit ceci. Avant, c'est nous qui étions tordus. Mais nous croyons que c'était plutôt la Bible. Mais en lisant la Bible, c'est elle plutôt qui nous a corrigés. Alléluia.
Amen.
Quelle histoire. Les gens qui lisent la Bible dans le but de la corriger se retrouvent en train d'être corrigés plutôt par la Bible parce qu'ils étaient tordus et ils croyaient plutôt que c'est la Bible qui était tordue. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu est infaillible. Que vous croyez ou pas, ça ne change rien. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 29, avant de lire Jérémie chapitre 23, le verset 29, pendant que mon frère Yannick va chercher cette portion de Saintes Écritures, écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ici. Matthieu 24, verset 35, il est écrit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Amen.
Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Frère Yannick, si tu es dans Jérémie 23, verset 29, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Parole du Seigneur.
Alléluia. La Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc, comme un feu qui consume. Donc, personne ne peut essayer de corriger la Bible de quelque manière que ce soit. Bien au contraire, la parole de Dieu, c'est un marteau, c'est un feu. Et Hébreux chapitre 4, les versets 12 et 13. Hébreux chapitre 4, les versets 12 et 13. Frère Yannick, si tu es à la page, tu vas lire pour nous tous. Écoutons attentivement ce que la parole de Dieu est capable de faire dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme et sur cette terre. Hébreux 4, les versets 12 et 13.
Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte par le Seigneur.
Amen. Ici, la Bible nous dit clairement que la parole de Dieu est vivante et surtout efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, parfois, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous avez comme impression que la personne qui est en train de vous parler connaît votre vie dans les moindres détails, ou bien que quelqu'un est venu lui parler de vous. Non, pas toujours. C'est parce que la parole de Dieu connaît votre vie. La Bible nous dit que personne ne peut se cacher au devant de Dieu. La seule chose que vous devez faire, c'est que vous deviez vous soumettre à la parole de Dieu. Ne combattez pas la parole de Dieu. C'est un combat perdu d'avance. Et nous allons finir par cette autre histoire. C'est l'histoire de cet homme politique qui a passé un bon bout de temps à l'hôpital parce qu'il était sérieusement malade. Et lorsqu'il va sortir de l'hôpital, puisqu'il était un homme politique, les journalistes vont l'approcher pour l'interviewer, surtout par rapport à sa maladie. La seule chose qu'il va trouver à dire, c'est: j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Mesdames et messieurs, en réalité, est-ce qu'on peut vaincre la mort? Ce n'est pas parce que vous avez échappé à un accident ou bien parce que les gens sont morts au cours d'un accident et que vous êtes vivant, que vous pouvez croire que vous avez vaincu la mort. L'une des choses que cet homme aurait pu dire, puisque ces petites histoires, c'est pour nous donner des grandes leçons, il pouvait au moins être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes qui ont passé des nuits sans sommeil à cause de lui. Beaucoup de médecins se sont relayés à son chevet. Beaucoup d'amis, de parents sont venus lui rendre visite, le fortifier, et ainsi de suite. Mais il a ignoré tout cela. La seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est « j'ai vaincu la mort ». Quel orgueil! L'orgueil est un péché terrible. Et surtout lorsque l'homme croit qu'il a vaincu la mort. Vous devez savoir que même si vous êtes encore en vie, ce n'est pas parce que vous êtes plus fort que la mort, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous donne encore un laps de temps. Peut-être le temps de mettre votre vie en règle avant de mourir. Parce qu'après votre mort, c'est le jugement. Et si vous n'avez pas cru, c'est le temps de feu qui vous attend. Donc c'est pour vous encourager. Vous qui avez passé beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup croyaient que vous deviez même mourir, mais vous n'êtes pas mort. Vous avez échappé à un accident ou bien beaucoup sont morts même dans un accident, vous êtes toujours vivant. Ne dites pas que vous avez vaincu la mort, ne croyez pas que vous étiez très fort. Non, c'est Dieu qui vous a accordé sa grâce. Soyez plutôt reconnaissant en disant merci au Seigneur et exploitez ce temps qu'il vous donne encore pour le servir, pour l'adorer et surtout pour mettre votre vie en règle pendant qu'il est encore temps. Comme je le disais tantôt, l'orgueil est un péché très grave. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Frère Yannick, si tu es à la part, tu peux lire pour nous tous 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7.
Il est écrit:
car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Alléluia. Tu peux lire la suite?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous dit ici que qu'est-ce que vous avez et que vous n'avez reçu? Tout ce que nous avons tout simplement reçu. Nous ne devons pas nous comporter comme si nous étions très forts, très sages, très intelligents, très puissants. Pas du tout. Beaucoup de gens qui se croyaient très forts, très puissants, du jour au lendemain, se sont retrouvés anéantis complètement. D'ailleurs, ce n'est plus un secret pour personne. Beaucoup sont en prison, alors que hier, ils étaient des directeurs, des ministres, des gouverneurs, je ne sais pas moi trop quoi. Tout ce que nous avons, même si vous êtes riches, matériellement et financièrement, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. C'est Dieu qui vous a tout simplement accordé la grâce de la voie. Soyez humble. Et Isaïe 47, le verset 7, 8 et 9, nous dit quoi, frère Yannick? Isaïe 47, verset 7 à 9.
Il est écrit: tu disais à toujours, je serai souverain. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur: moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privé d'enfant.
Amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, c'est Babylone, lorsqu'elle était au sommet du monde, qui parlait ainsi. Parce que Dieu lui avait accordé la grâce d'être très riche, très prospère et surtout puissante. Elle se prenait pour le nombril du monde, la tête, le toit du monde. Et c'est ainsi qu'elle disait: ah, toujours je serai souveraine. Et Dieu va juger Babylone. C'est ainsi qu'en un laps de temps, Babylone va être détruite. Elle va perdre toute sa splendeur jusqu'à ce jour. Donc, l'orgueil est un péché terrible. Lorsque l'homme commence à être orgueilleux, sa chute est proche. Ce dernier verset que nous allons lire avant de nous séparer par rapport à ces petites histoires, c'est Proverbe chapitre 8, d'abord le verset 13, qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick? Proverbe chapitre 8, le verset 13.
Il est écrit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal.
Alléluia. Dieu est l'arrogance, l'orgueil, c'est la voix du mal. Et la Bible nous dit que Dieu déteste cela. Donc Dieu ne veut pas que les hommes soient arrogants, pour n'importe quelle raison que ce soit. Même si vous êtes riche, même si vous avez une position sociale élevée, ça ne sert à rien d'être arrogant. Nous avons lu au départ, qu'avez-vous que vous n'avez reçu? Et si vous l'avez reçu, comment est-ce que vous pouvez faire comme si vous êtes né avec? Personne n'est venu avec ces choses sur la terre. Et toujours dans Proverbes, cette fois-ci, chapitre 16, le verset 18, il est écrit quoi, frère Yannick? Proverbes, chapitre 16, le verset 18. Oui, Proverbes, chapitre 16, le verset 18. Si tu trouves cette portion d'écriture, tu lis.
Il est écrit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Alléluia.
Amen.
Sans commentaire. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps, nous allons nous séparer. À côté de moi, mon bien-aimé frère dans le Seigneur, frère Yannick Nankep. Quant à moi, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous et surtout, ne ratez pas le prochain rendez-vous. Amen. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237, qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais.
Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.